lifetime.
Dans l'industrie de l'audio, de la vidéo, de l'éclairage et de la sonorisation professionnelle, l'équipe de Sonomusique est incontestablement la meilleure. Ayant constamment innové depuis 20 ans dans le domaine de la sonorisation des grands événements et grâce à son système Dernier Cri, constitué dans cette acoustique à la fine pointe de la technologie, Sonomusique vous offre une sonorisation puissante de grande envergure sur une longue portée. Pour la meilleure qualité de sonorisation possible à petite, moyenne et grande échelle, choisissez Sonomusique, le leader qui pense, innove et bâtit l'avenir de la sonorisation avec les nouvelles technologies. 3950 Jean Talon Est, coin 22e, proche de Pineuf. Téléphone 514-723-6101.
Bonsoir, c'est ici Jean-Philippe Vézina, DJ Mauvaise, qui va être votre hôte pour l'émission qui commence à l'instant. Vous êtes à l'écoute du Soul Leader Podcast, une émission où la musique, les voyages autour du monde auront leur place, tout comme le développement personnel, le marketing et la justice sociale. Donc, je me suis introduit, je me prénomme Jean-Philippe, je suis entre autres coach, maraîcher, entrepreneur social, père de famille, tout cela en même temps et bien plus encore. L'émission, le Soul Leader Podcast, ce sont des occasions de découvrir les possibilités infinies qui s'offrent à chaque homme et femme noire de changer durablement leur destin et celui de leur communauté. On présente tout ça à travers des entrevues, des mini-leçons, des histoires fabuleuses d'entrepreneurs, d'artistes et de leaders d'ici au Québec et des quatre coins du monde. Aujourd'hui, pour l'émission, il va y avoir notre chronique musicale où est-ce qu'on va développer et faire des différents voyages dans le monde du reggae. Reggae qui s'est répandu un peu partout à travers la diaspora afro-descendante. Donc, on va faire un petit voyage musical en langue et en style. Tout ça, ça s'en vient à l'émission. On a aussi notre chronique entrevue. Donc, je vais vous présenter une rediffusion d'une entrevue que j'ai réalisée avec le chef culinaire et conseiller culinaire Jérémy Jean-Baptiste. Donc, ça s'en vient un peu plus tard lors de l'émission. Et bien sûr, ben, je vais parler un peu de choses qui se passent dans nos communautés. Donc, vers la fin de l'émission, je vais vous parler d'un forum auquel je compte participer, qui va se passer à Brazzaville, en République démocratique du Congo, le Black International Leadership Youth Forum. Donc, on va parler un peu de tout ça aujourd'hui lors du Soul Leader Podcast. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Et jusqu'à 20h ce soir, c'est le Soul Leader Podcast. Alors, on va continuer en musique pour la suite de l'émission. Et on écoute tout de suite un morceau qui s'appelle Kenke Corner du groupe Guts. Tout ça au Soul Leader Podcast sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Alors, c'est parti.
Oh, yeah, man, I'm in here. Back on my step. Oh, yeah, man, I'm in here.
Alors, vous êtes toujours sur les ondes de CKUT 90.3 FM. C'est le Soul Leader Podcast qui se poursuit jusqu'à 20h aujourd'hui. Vous êtes animé et ambiancé par moi-même, Jean-Philippe Vézina, aka DJ Mauvaise, pour une émission où est-ce qu'on on fait un tour du monde et on parle de développement personnel. On a des entrevues avec des leaders, des influenceurs de la grande diaspora afrodescendante. Donc, c'est ce qu'on fait ensemble pour les prochaines minutes. Et on entre dans la chronique développement personnel et chronique du coach. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une thématique qui touche à la fois, on peut dire, notre histoire et les stratégies quand on est en affaires ou qu'on a un projet à faire connaître. Je veux vous parler de storytelling, l'art de raconter, d'utiliser nos mots pour faire passer des messages, pour faire passer des histoires, des morales, des leçons, quelque chose qui fait partie de nos vies en tant qu'humains depuis bien, bien longtemps. Les histoires font partie depuis que la parole à intégrer nos communautés. Les histoires font partie des principaux outils qu'on a pour communiquer nos savoirs, communiquer ce qui s'est passé par auparavant. Les histoires de nos ancêtres, de nos communautés, de nos royaumes, si on parle du continent africain. C'est un art qui s'est perfectionné et développé. En tant qu'afro-descendant, notre patrimoine a été principalement transmis à travers justement la transmission, à travers une transmission orale. Et un personnage important de nos héritages et de nos patrimoines en tant qu'afro-descendant, c'est le griot, qu'on appelle le porteur de la parole en Afrique. Donc un aspect sociétal très, très important. Donc en Afrique, les griots sont les gens de... Les gens de la parole, au sens, on pourrait dire, originel de l'action. Donc, en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, avant l'époque coloniale, et bien, 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 bien longtemps avant, bon, la littérature était orale et en langue, ce qu'on appelle vernaculaire. Donc, par cela, sa conservation, la conversation du patrimoine des langues et des paroles était particulièrement importante. C'était de la façon de transmettre de génération en génération les idées et les grandes histoires des influenceurs de nos communautés. C'était spécialement le rôle justement du porteur de parole qui était le griot, un savoir, une expertise qui était bien souvent transmise au sein d'une même famille, de génération en génération. Et son rôle était particulièrement important, justement parce qu'il était en mesure de pouvoir transmettre les activités, les grandes réalisations de la communauté dans laquelle une ethnie pouvait appartenir en particulier. C'était aussi une personne qui souvent pouvait maîtriser plus d'une langue, ce qui lui permettait d'avoir une perspective très intéressante sur différents aspects du royaume et des éléments qui entouraient le griot. Et aujourd'hui, comment on peut faire le pont entre cette tradition du griot et ce qu'on peut faire aujourd'hui en ce qui concerne justement le marketing? Eh bien, quand on a une organisation, qu'on a une entreprise, une business, puis qu'on veut la faire connaître, mais le storytelling, c'est vraiment une excellente façon d'utiliser, on pourrait dire, une arme par rapport à tout ce que... Une arme, un outil qu'on peut avoir à son arsenal, justement, pour avancer. Donc, de plus en plus d'entrepreneurs qu'on voit aujourd'hui, entrepreneurs sociaux, entrepreneurs dans le monde des affaires, ils vont développer puis vont mettre sur le marché des produits, des services, des causes qui sont bien souvent innovatrices, qui méritent de se faire connaître. Mais le grand enjeu pour plusieurs, c'est comment on va communiquer efficacement puis faire profiter pleinement à nos auditoires de nos passions, de nos engagements, puis de toute l'énergie qu'on a mis dans notre projet, dans notre entreprise dans laquelle on a investi. Mais pour arriver, il faut être en mesure de pouvoir justement communiquer efficacement avec un auditoire qui va être bien souvent varié, autant au sein de son organisation qu'à l'externe. Donc, on parle à ce moment-là des employés, des clients, des investisseurs, des médias, du grand public, etc. Donc, comment on arrive justement à se faire entendre? Une façon très efficace de le faire, c'est justement en utilisant le storytelling. Parce que, comme je dis, c'est pas toujours facile d'obtenir le support puis la reconnaissance de son auditoire. Bien souvent, lorsqu'on a des causes à porter, on a des trucs innovateurs à faire connaître, on passe souvent sous silence parce que les changements qu'on veut apporter sont souvent invisibles, on peut dire d'une certaine façon, intangibles pour la plupart des gens, pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, comment développer une confiance? Comment aussi développer un narratif qui attire l'attention? Choisir une histoire, utiliser son pouvoir, c'est vraiment d'une grande efficacité. Et pour ça, bien sûr, il y a des stratégies. Le monde de la construction d'une histoire narrative, que ce soit à travers le cinéma, que ce soit à travers les livres, ils ont des étapes à suivre et qui, en les apprenant, ça peut être extrêmement intéressant de le faire. Donc, c'était ma petite chronique, ma petite parenthèse dont je voulais parler aujourd'hui. Le storytelling, à quel point il est important dans nos cultures en tant qu'afro-descendants. Un des grands enjeux auxquels on fait face, c'est justement que nos histoires de nos nations, les histoires de nos pays, ont bien été souvent écrites par d'autres. Et il est important de pouvoir se réapproprier ce narratif pour faire connaître nos multiples histoires et la profondeur de nos parcours uniques en tant qu'individus et des parcours uniques de nos causes, de nos projets, de nos entreprises. Et justement, d'être maître de ce narratif et de pouvoir faire rayonner notre culture. Et parlant de faire rayonner sa culture, ce sera le thème de l'entrevue que j'ai réalisée avec le chef et conseiller culinaire Jérémy Jean-Baptiste. Donc, dans environ une quinzaine de minutes, non, même pas, dans quelques minutes, justement, je vais vous présenter cette entrevue. Mais juste avant, on va faire un petit voyage musical. Je voulais vous faire un voyage musical à travers le reggae cette semaine. Parce que je suis allé voir le film One Love il y a de cela quelques jours avec ma fille. One Love, c'est un film, on pourrait dire biographique, de l'artiste Bob Marley, artiste légende de ce courant musical qui est le reggae, un grand porte-parole, mais bien plus qu'un musicien, une personne extrêmement engagée pour justement la cause de faire briser les barrières qui nous divisent. En tant que peuple afrodescendant, c'était une personne qui avait une grande vision pour ce qui est le panafricanisme et aussi une vision pour un monde où on va retrouver plus de paix, plus de paroles réconfortantes. Et le film en particulier qui s'appelle One Love, qui est présentement sur les écrans un peu partout à travers le monde, en français, en anglais et en d'autres traductions, j'en suis certain, mais permet de voir une période de la vie de Bob Marley, en particulier celle où l'album Exodus, un album phare de sa carrière, a été créé. Donc, une occasion de rencontrer et de découvrir les gens qui l'a côtoyé dans sa vie. On a sa femme, Rita Marley, on a les musiciens, ses amis, ses agents, voir comment tout ce beau monde a évolué durant cette période face dans créativité. De voir un peu le parcours personnel, justement, de cet homme, Bob Marley, comment, à travers la musique, puis à travers aussi l'engagement qu'il a mis dans sa carrière, a pu aller bien au-delà d'être un simple musicien, un simple transmetteur de paroles, mais d'être un grand influenceur à travers le monde et de réunir les gens, ce qui était justement son ambition à travers la musique. Donc, le reggae, bien sûr, avec cet ambassadeur-là, mais plusieurs autres artistes, a voyagé à travers la diaspora afrodescendante. Il s'est exprimé dans différents styles et dans différentes langues. Donc, ce que je vous propose pour le prochain parcours musical de l'émission, le Soul Leader Podcast, c'est un pot-pourri, un mixte, justement, d'artistes reggae que j'ai envie de vous faire découvrir. Et on va commencer avec un groupe qui nous vient du Brésil. Il s'appelle Tribo de Ja. Et c'est le premier morceau qu'on va écouter ensemble pour ce mix. Alors voilà. Donc ça s'en vient. Je vous rappelle que vous écoutez le Soul Leader Podcast sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Et on y va en musique. C'est un remix, en fait, que j'ai envie de vous faire écouter. Un remix de Bob Marley de la chanson Mundo en Confusion, So Much Trouble in the World, version brésilienne. On écoute ça à l'instant. C'est parti. Musique.
Mundo em aflição. Oh yeah, oh yeah. Dias de tribulação, de degradação.
So much trouble in the world. So much trouble in the world.
Degradação moral e ambiental, fruto da mesma ação nefasta de um sistema irracional que polui, degrada e devasta.
Bless my eyes this morning. Just some is round or wise once again.
Os mentores da ordem econômica, defensores de teses anacrônicas, senhores do saber e da razão, semeadores de destruição. Almejam o lucro a todo custo, apreciam o conforto, o bom gosto e o luxo, não percebem o drama, sinistro sinal, a bomba relógio do aquecimento global. Mundo em aflição. Oh yeah. Oh yeah. Dias de tribulação, de degradação. Pra rapaziada é tudo curtição, tá tudo muito bem, é tudo muito bom. Pra inflamada chegou o verão, dia de balada, de curtir um som. Rolando altas ondas, que alucinação. A gatinha passa sabendo que é bala, com seu shortinho, sexy, seu bombom. Bala, bala, bombom, bala, bala. Tudo muito bem, tudo muito bom. Não importa a ética, impera a estética. Degradação moral e ambiental. Corpos sarados, mundo animal. Espíritos alienados. Ninguém parece refletir com calma que o corpo padece. Morre o corpo e fica a alma.
Song I love the eye. Jah is standing by. He's standing by. Yo, that's why me hear Jah and sing. Why? All of the next young are gone in the coffee kautapu. Jale. All of the ghost young are dirty the deto outapu. Yeah, yeah. Jah, Jale. I told the foundation I see calling with man Kelly. Talk about lobby, man they are gonna need to look with fatty. Me no sabi sana speech, need them big in my holy holiday. Side day one baby mudele, in your coast to full and time. Be careful the things you do, Jah is watching you.
Yeah. not for his physical health shall fade away. Some believe in diamond and pearl and feel like they're on top of the world. They shall fade away. The rich is getting richer every day, and the little that the poor man got shall be taken away. Do you hear what I say? Do you hear what I say?
The man who worships silver and gold shall surely, surely, surely lose his own soul
and fade away.
The one who's always acting smart and don't carry no love in his heart
shall fade away.
Oh, oh, oh.
God is here and there and everywhere. Game on fire, so people beware, or else you fade away. Beware, or they'll fade away. Gotta fade away.
As we extend the hand of universal love,
yeah, man.
Nous tous les pouvons mes bons yeux. Ah, hey. Ça c'était que nous tous les pour prier mon Dieu. Oh, hey. Ok, boum.
Every time avant que je m'endors, je prie Almighty le plus fort. Nous donne la sagesse d'un mentor et la force d'un gladiateur. Every time avant que je m'endors, je prie Almighty le plus fort. Nous donne la sagesse de mon corps.
Im, yon, stiggy de bam bam, diggy de ya. Pour devenir fort, mon frère, faut fifi, faut fi, faut pregner, faut louer, man le plus fort. Dans ta bataille, si tu te, te, tu te tournes, fais le moment toi qui te rendra gladiateur. Dans la bataille, mon nom, man, ce mot n'est pas un, mais ma code mort, j'allais, mais n'est pas mort. Yo, mange pour vivre, mais pas vivre pour manger comme un porc. Oh, oh, oh. Every time avant que je m'endors, je prie Almighty le plus fort. Nous donne la sagesse de mentor et la force d'un gladiateur. Every time avant que je m'endors, je prie Almighty le plus fort. Nous donne la sagesse de mentor.
Des voix discutent sont bas, des fois mon Dieu se traite malade. Ils ont des amis, ils ont des bagues, ils disent qu'ils n'ont pas peur du diable. Mais quand ils arrivent à un stade, y'a plus de monnaie, y'a plus de bagues, y'a plus d'amis, y'a plus de bagues. Des sources, oh my god, c'est le problème qu'arrivé, quand on voit la réalité. Qui moune qui bon, qui moune qui mauvais, qui moune qui cagoué en bon Dieu. Mon papa, mon papa, péfié, les bons amis de voyons tourner. La société qui a rejeté, y'a qui bon Dieu qui a rejeté.
Why leave badness, likeness, and start free. Me, I tell you, make them run away. Whenever I see you, them off it's in way. He will be same, but I'll tell you why. Leave madness, blackness, and start pray. Me will tell you, make them run away.
Operation coup de poing.
How can you disrespect the queen? It's a long time in there. Me well up this thing from Brazil to Jamaica, like the cup with the queen. The voice of Queen Amiga makes the world tune in. With versatility, sometimes me teach it and sing. Once my mind is made up, I can do anything. Nothing is impossible with the kings of kings. Me just hold a pipe and sit down and redeem. Don't go be local. I'm internationally blessed with my vocal. I tell you this, don't go.
Alors, vous êtes toujours sur les ondes de CKUT 90.3 FM. C'est le Soul Leader Podcast qui se poursuit avec moi-même, Jean-Philippe Vézina, aka DJ Mauvaise, pour encore 25 minutes de découverte et de voyage et de rencontres pour découvrir le plein potentiel des hommes et des femmes noires partout à travers la diaspora, de pouvoir changer leur communauté, changer leur destin. Et pour le reste de l'émission, je vais vous présenter un extrait d'une entrevue que j'ai réalisée justement avec le chef et conseiller culinaire Jérémy Jean-Baptiste. Donc sans plus tarder, j'enchaîne avec cette entrevue justement et on y va tout de suite. C'est parti. On est en compagnie de Jérémy Jean-Baptiste, qui est chef consultant, animateur culinaire, qui va venir nous parler de sa passion pour la gastronomie antillaise et martiniquaise et nous partager son parcours de vie. Jérémy, c'est quelqu'un que j'ai rencontré justement dans le cadre d'une émission de télé ici au Québec, à Radio-Canada. Il y a une émission qui s'appelle L'Épicerie. J'ai eu l'opportunité de pouvoir l'inviter à la ferme des Jardins-Lacour et il nous a préparé des merveilleux plats avec les légumes du jardin. Donc, je peux déjà dire que j'ai goûté et j'ai apprécié ce qu'il fait. Donc, Jérémy, bien content de t'avoir avec moi sur ce panel. Bienvenue.
Merci pour l'invitation.
C'est avec grand plaisir. Ce que je voulais qu'on puisse faire ensemble, c'est avoir une discussion pour permettre aux auditeurs, aux participants d'apprendre à connaître ton parcours, puis qu'ils puissent en tirer peut-être des belles leçons, des conseils pour eux-mêmes avancer et faire rayonner leur passion, que ce soit pour à travers la gastronomie ou à travers les autres héritages afrodescendants que représente leur entreprise. Donc, peut-être tu pourrais me parler comme première question un peu de toi et de ton... comment tu es arrivé dans le milieu de la cuisine?
Eh bien, je veux dire un petit peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai une maman qui a un restaurant antillais à Mont-Soleil-Mines. C'est une petite ville en Saône-et-Loire, ça se trouve en Bourgogne. Elle a un restaurant antillais depuis maintenant 35-36 ans. Donc aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare de trouver des entreprises qui ont plus de 30 ans. Mais écoute, ça fait 36 ans qu'elle partage son amour de la cuisine antillaise au bourguignon, puis aux Français en règle générale, pour ceux qui s'arrêtent la voir. Donc pour moi, travailler en cuisine, c'était quelque chose qui m'était comme prédestiné. Étant donné que c'était une entreprise familiale, mon grand frère, ma grande sœur ou moi-même avions l'obligation, je dirais, de travailler et puis de faire vivre l'entreprise, puisque c'est grâce à elle si on a pu vivre, s'habiller, manger, tout ce qui va avec. Et je voulais faire de la cuisine et mes parents n'ont pas voulu. Grande surprise, parce que j'ai mon grand frère qui est chef de cuisine, et puis pour moi, ça me paraissait logique d'être cuisinier, mais mes parents n'ont pas voulu. Parce que le métier était un peu trop difficile et ils voulaient vraiment que je voie autre chose. Donc j'ai eu la chance d'avoir sur mon parcours scolaire une personne qui a vu en moi une manière de m'exprimer et puis une certaine aisance à être devant le monde. Et donc elle m'a dit, écoute, tu devrais faire de la vente. Donc je me suis lancé dans un cursus tertiaire en vente où j'ai pu obtenir 3 diplômes. À la suite de ça, je ne me sentais pas approfondir mes connaissances ni travailler complètement dans la vente. J'avais énormément d'admiration pour les artisans. J'avais des amis à moi, coiffeurs, ébénistes, qui se servaient de leurs mains et qui avaient un résultat palpable. Et moi, la cuisine, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. La dernière année où j'ai passé mon diplôme de vente, j'étais à Lyon. Et j'ai grandi avec des idoles en cuisine. Il y a ma maman en premier. Il y a Maïté, c'est une personnalité en France qui fait de la cuisine traditionnelle, pardon. Et Paul Bocuse. Donc, étant à Lyon, je me suis dit, je ne vais pas me gêner. Je vais aller voir Monsieur Paul et je vais essayer de rentrer dans un de ses établissements. Donc, ça n'a pas été de mince affaire puisque je me suis présenté, j'avais à peu près 21 ans. Et l'âge pour rentrer en apprentissage en cuisine, c'est aux alentours des 14-15 ans. Donc j'étais déjà bien vieux pour pouvoir commencer l'apprentissage. Je me suis présenté une première fois, on m'a dit non. Je me suis présenté une deuxième fois, on m'a dit non. Une troisième, une quatrième, une cinquième fois, on m'a dit non. Et à la sixième, je pense qu'ils en avaient marre de me voir. Ils m'ont dit, écoute, le chef est là. C'était pas Paul Bocuse, mais c'était Éric Ponsu, un meilleur ouvrier de France. C'était le responsable des brasseries, donc des établissements de Paul Bocuse. Et là, il me reçoit, il me dit, écoute, ça fait un moment qu'on parle de toi, on m'a dit que tu voulais être en apprentissage ici, mais moi j'ai un problème, c'est que tu es trop vieux. Je lui dis, comment ça, je suis trop vieux? Il me dit, écoute, à 14 ans, si j'ai quelque chose à dire sur un apprenti, je sais qu'il ne va pas me répondre, mais toi, à 21 ans, on fait comment? Il dit, écoutez, moi j'ai grandi dans une entreprise familiale avec ma maman comme boss, et j'ai toujours su me placer là où il fallait, écouter quand il fallait écouter et faire ce qu'il y avait à faire. Donc, il me semble que j'ai tous les éléments pour pouvoir être un bon apprenti. Il m'a dit, écoute, tu peux commencer quand? Je lui dis, je commence là. Il me dit, viens demain. Et c'est là que j'ai commencé mon aventure chez Bocuse. Donc, c'était très difficile. J'ai J'ai eu des journées où j'ai pleuré. Hein, quand tu fais 15, 16 heures par jour, puis tu sais que tu dois revenir le lendemain pour refaire la même chose. C'était pas facile, mais c'était une très bonne école. C'est une école où j'ai pu apprendre, enfin, surtout sur le terrain, apprendre la discipline, la rigueur et la régularité. Donc, ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que je savais plus ou moins déjà parce que je travaillais en restaurant, et surtout de découvrir une facette de la gastronomie que je ne connaissais pas forcément, qui était la gastronomie de haut niveau. Mais là où je me trouvais, c'était dans une de ces brasseries, et j'avais la chance d'être formé par des chefs qui, eux, ont travaillé près de Monsieur Paul et qui m'ont transmis ces connaissances. Donc, c'est avec ça que j'ai pu grandir, avec à la fois mon héritage martiniquais et bourguignon de naissance et la formation que j'ai pu avoir chez Bocuse à Lyon. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dans la cuisine. Et après quelques années à découvrir un petit peu différents types de restauration à Lyon, parce que après ma formation, j'ai eu comme l'envie d'exploiter ma formation de vendeur. Et il existe un métier en France qui s'appelle le conseiller culinaire. Donc c'est un chef de cuisine qui va représenter des industriels ou des entreprises sur des salons pro. Donc j'ai eu la chance de faire le Sierra, qui est plusieurs fois, qui est le plus gros salon d'Europe de la gastronomie. Puis plusieurs salons en interne. J'ai pas mal de gros clients comme le groupe Seb, par exemple, qui a Tefal, Krups, Lagostina, toutes ces affaires-là. Donc c'était une belle aventure pour moi, et puis donc je participais aux formations des directeurs commerciaux, et j'allais faire des démonstrations, ce genre de choses sur des salons. Donc j'ai pu associer ma formation de cuisinier et ma formation de vendeur, puisque j'avais le langage technique des vendeurs, et j'ai à la fois pu utiliser mes performances, mes connaissances techniques. Donc à travers tout ça, j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait, et j'ai pu à chaque fois mettre des petites touches de mes origines dans mon travail. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi à la fois avoir une image de cuisine traditionnelle bourguignonne et en même temps d'afficher une espèce de fusion comme ça avec ma culture afro-descendante.
Super, excellent. Je voulais savoir, autant pendant que tu étais en France qu'ici, comment maintiens-tu ton lien avec la cuisine antillaise et la Martinique au jour le jour dans ta vie?
Alors, comment je tiens ce lien? Déjà, je dirais avec la musique. Parce que la musique, j'écoute beaucoup de musique antillaise, musique haïtienne. Et ça, c'est... C'est assez important dans mon quotidien, parce que c'est ce qui va me permettre de malgré moi toujours penser à la Martinique en fait, et aux Antilles, et puis à mes origines afrodescendantes. Donc la musique me permet d'être connecté, comment dire, j'ai été élevé là-dedans, donc faire un repas antillais ou à un moment donné reprendre un moment culinaire dans le calendrier pour le reproduire à la maison, comme par exemple à Pâques où on fait du crabe, on mange du crabe, et ben chez nous à Pâques on mange du crabe, puis je fais une recette de matoutou, et donc voilà comment je garde le lien avec le pays. Puis de toute façon, quand j'appelle ma maman ou je suis en échange avec mes cousins, je suis toujours en lien quoi qu'il arrive avec les Antilles.
Avec les Antilles. Super, excellent. Donc tu peux me parler, à partir du moment où tu es arrivé ici, au Québec, comment s'est passée ton évolution pour arriver à la personne que tu es aujourd'hui? Donc, une personne qu'on connaît dans les médias, qui est appelée à partager ses connaissances, puis qu'on peut considérer comme une personnalité publique. Donc, parle-moi un peu de ce parcours-là. Quel a été pour toi, peut-être, des défis, des bons coups, des choses qui t'ont marqué à travers tout ça?
Alors, je suis arrivé ici en ayant quand même un objectif. C'était de pouvoir vivre mes rêves. Et mon premier rêve, c'était d'avoir mon émission de cuisine. Donc, pour avoir une émission de cuisine, il faut avoir des choses à raconter. Mmh. Et quand je suis arrivé il y a 9 ans, Je pensais avoir des choses à raconter, mais en fait, pas du tout. J'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'étais encore en mode apprentissage, en ayant quand même dans le coin de ma tête mon objectif que je voulais pas louper. Avant d'arriver ici, pour essayer de sortir du lot, parce que je voulais pas arriver en tant que cuisinier, parce que des cuisiniers, on a beaucoup, je me suis formé en accéléré à la boulangerie. Ce qui fait que je suis arrivé ici en ayant des diplômes en vente, diplômes en cuisine et diplômes en boulangerie. Une fois que j'ai eu mon diplôme et arrivé ici, je me suis dit, ben, je veux pas travailler dans une boulangerie, mais je veux pas perdre la main. Et j'avais toujours mon objectif de d'avoir une émission de cuisine. Donc, j'avais en tête qu'il fallait que je m'entraîne, que je prenne de l'expérience et que je m'habitue à partager, à mettre en place et puis avoir évolué ce que j'avais dans la tête. J'ai décidé de donner des cours de boulangerie de tradition française à domicile. Dans tout le Canada, je pense que je suis le seul à proposer ce cours de boulangerie de tradition française à domicile et d'avoir les résultats que j'ai, c'est-à-dire que j'ai développé une méthode qui permet d'avoir du pain comme dans une boulangerie. Mais surtout, cette méthode, elle répond à tous les... À tous les défis qu'on peut avoir au quotidien. Et le premier défi, c'est un défi de temps, où le temps est très très court et puis on peut pas associer du pain avec avec un quotidien chargé. Donc j'ai réfléchi à tout ça. Je dirais que c'est ma formation de vendeur qui m'a permis de comprendre une situation, de la décortiquer, créer un besoin et mettre en place un processus. Donc grâce à tout ça, j'ai pu mettre en place un cours. Ce cours, j'avais décidé de le vendre, mais à l'époque, quand je suis arrivé ici, j'étais en contrat fermé, donc je ne pouvais pas avoir une entreprise ou faire quoi que ce soit. Donc, j'ai décidé de faire de ce cours quelque chose de gratuit. J'ai regardé le prix des cours de boulangerie à l'ITHQ, ce genre de choses, c'était relativement élevé. Je ne pouvais pas faire de commerce, je ne pouvais pas proposer le prix que l'ITHQ ou peu importe pouvait proposer, parce que j'aurais été en concurrence directe, je n'avais pas les matériaux, même si j'avais mis en place ma formule à domicile. Et je voulais vraiment toucher le maximum de monde et partager cette connaissance qui est vitale de savoir faire du pain. Quand tu sais faire du pain, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu sauras manger. Donc, je voulais vraiment transmettre l'amour qu'on m'a passé du pain et j'ai finalement décidé de faire de ce cours quelque chose de gratuit. Ça a été un super gros succès parce que c'était un gros pari.
Bah oui, en
J'ai
effet.
été confronté à deux choses. Est-ce que je veux réellement gagner de l'argent ou est-ce que je veux transmettre quelque chose et apprendre, investir sur le temps pour, dans quelques années, pouvoir jouir de tout ce que j'aurais appris pendant cette période et juste dérouler tout mon apprentissage. C'était une très belle école parce que à chaque fois j'ai dû m'adapter à des cuisines complètement différentes, faire en sorte que ma formule soit un peu comme un caméléon et prêt à aller dans tous les contextes, les débutants, les curieux, les pressés et tout ça. Donc c'était beaucoup 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 de réflexion et finalement j'avais un retour qui était au-delà de ce que j'aurais pu espérer, sans parler d'argent, mais une reconnaissance qui était folle, puisque les gens savaient faire du pain après mon passage. Je remplissais mes promesses, c'est-à-dire un cours très court et riche en connaissances. Et puis surtout, je voulais avoir des personnes qui se sentent complètement déstressées face à la préparation et à la cuisson du pain. Donc, pendant toutes ces années où j'ai pu partager ces connaissances en boulangerie, là je le fais un petit peu moins parce que j'ai moins le temps, mais ça a été un très bel apprentissage pour moi. Bah, ça m'a permis de gérer une formation, de réfléchir au sujet précis qui était de répondre à une question de temps, d'avoir un résultat rapide et puis surtout de garder en tête que la tradition se doit d'avoir une connaissance assez précise. Donc, j'ai pour moi rempli tout ce que j'avais à remplir. J'étais dans l'innovation, dans la réflexion d'un présent et dans l'entretien de tradition. Donc, ça, ce sont des outils que j'ai pu reproduire dans plein d'autres situations et qui m'ont permis, et encore aujourd'hui, d'avancer avec ces trois pôles qui me permettent de, à la fois de ne pas perdre le lien avec la tradition, de comprendre les besoins actuels et puis de penser à quelque chose de contemporain, de moderne.
Wow. Ben, bravo, félicitations pour ça. Puis c'est comme tu dis, c'était un pari au départ, surtout dans l'idée de l'offrir gratuitement puis de miser sur le long terme. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs devraient réfléchir à un, comment dire, ouais, c'est ça, prendre le temps de réfléchir comme trajectoire, dans le sens qu'il y a des choses qu'on peut faire qui nous rapportent maintenant, mais si on veut avoir du succès à long terme, ce qu'on sème, pour reprendre des termes de jardinier, ce qu'on sème maintenant, ce qu'on va récolter plus tard, c'est toujours infiniment plus que le temps initial qu'on a mis, puis en termes d'abondance aussi. Donc, chapeau à toi pour avoir fait ça. Puis, j'espère que ça va vous en inspirer plusieurs autres. Maintenant, je voulais savoir, une fois que tu as fait ce parcours-là, par rapport à la formation que tu as développée, qu'est-ce que tu crois que quel genre de débouché ça t'a amené pour la suite de ce que tu fais maintenant?
Alors, je vais commencer par dire que je suis le dernier de ma famille. J'ai un grand frère qui a 9 ans, une sœur qui a 8 ans. Donc, j'ai grandi avec des personnes qui avaient déjà de l'expérience.
Okay.
Comme disait Ayam, quand tu allais, on revenait fils. Donc, j'avais en face de moi des gens qui revenaient et qui me partageaient leur connaissances. Dans mon éducation, mes parents m'ont appris à écouter les anciens et à prendre en considération ce qu'ils ont à dire. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que, en fait, j'ai pu puiser dans l'expérience de chacun pour, je dirais, me faire avancer plus vite. Je te dirais que j'ai pas besoin de mettre la main dans le feu pour savoir que ça brûle. Ça va être très rapide. L'expérience, j'ai pas besoin de la vivre. On va me l'expliquer, je vais comprendre, je vais aller plus vite. C'était quoi ta question déjà?
Ma question, c'était comment ton expérience, ta première expérience justement à développer la formation, t'as pu t'ouvrir des portes ou t'offrir des opportunités pour t'amener où est-ce que tu es aujourd'hui. Mais c'est très intéressant ce que tu as dit.
Je pense que c'est
extrêmement important de savoir puiser dans l'expérience des anciens, de savoir surtout écouter pour prendre modèle sur des personnes qui sont, on peut voir comme des mentors, qui ont déjà fait le chemin que tu aimerais faire toi-même. Donc, comme tu disais, quand tu allais, nous, on revenait, fils.
Donc, j'ai pas perdu le fil. Merci. Donc, finalement, je me suis à chaque fois servi des expériences pour pouvoir avancer. Et là où je voulais en venir, c'est que ce que j'ai appris dans mon parcours, dans ce que j'ai fait, notamment dans la boulangerie ou peu importe, c'est que finalement, pour pouvoir être optimal dans ses résultats, la base de tout, c'est le bien-être. C'est être bien avec soi-même. J'ai remarqué une chose, c'est que les périodes où j'avais pris le temps de régler tout ce que j'avais à régler, d'enlever les petits cailloux qui sont dans la chaussure, des choses qu'on regarde, qu'on voit, mais qu'on n'a pas envie de gérer. Et puis finalement, quand on est dans la création, ça revient comme un élastique content et ça vient te claquer dans le coin de l'oreille. Et ça, c'est pénible. Et tu ne peux pas être efficace quand c'est comme ça. Donc la première chose que j'ai compris, c'est le bien-être. Et ce bien-être, je l'ai eu dans la reconnaissance. La reconnaissance, elle a été dans la formation de boulangerie que j'offrais, dans le fait que les gens étaient contents. Et ça, finalement, c'est ce qui m'a permis de me sentir bien et fier de ce que je fais. Et j'ai remarqué une chose, c'est que dans beaucoup de situations, les personnes qui sont dans la révolte ou dans la souffrance, c'est que souvent, il y a un problème de reconnaissance. Et que quand on a la reconnaissance, on a le plus beau salaire du monde. Savoir qui on est à travers l'autre, connaître sa place, se sentir bien. Donc ça, ça a été la première chose. Une fois que j'ai réglé toutes mes affaires, que je me suis senti bien dans ma peau, j'ai eu juste à penser à mon objectif. Il y a bien sûr l'objectif argent, mais je vais vous dire par expérience, quand on cherche de l'argent, c'est à ce moment-là qu'il se barre. Quand on fait abstraction à l'argent et qu'on focus sur son objectif, l'argent va venir de lui-même. Comme je l'ai dit, je suis le dernier d'une fratrie de 3 enfants et j'ai vécu toujours avec les expériences et les conseils des autres et des grands. J'ai eu la chance de rencontrer Claude Bégin, le chanteur, puisque nos garçons allaient dans la même école quand on habitait à Québec. Puis un jour, je me suis permis d'aller le voir en disant, comme s'il allait avoir la formule magique, parce que lui, il est dans le spectacle et puis il vit de ça. Je lui dis, Claude, écoute, j'aurais un petit conseil à te demander. J'ai envie de réussir à faire quelque chose, j'ai envie d'avoir une émission de cuisine, j'ai envie de faire un truc, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas qui aller voir. Il m'a dit, écoute, c'est simple, si j'ai un conseil à te donner, fais un tas de trucs, fais des choses, sois entreprenant, réfléchis pas, investis-toi à fond, fais. Donc j'ai écouté ses conseils et j'ai fait un tas de trucs. J'ai fait un tas de trucs où je me sentais bien. J'ai fait des choses qui m'ont pas forcément plu, mais je les ai fait quand même et j'en ai toujours tiré quelque chose de positif. Et j'ai fait. En donnant mes cours de boulangerie, j'ai développé l'envie de faire des vidéos. Et en faisant des vidéos, j'ai été vu. Et en étant vu, on m'a contacté. J'avais pas dans l'objectif de faire de l'argent. Le seul objectif que j'avais, c'était de transmettre une passion. J'avais, même si l'argent était quelque chose de primordial, et il est encore aujourd'hui, j'en ai vraiment fait abstraction. Et j'étais vraiment enivré par ma passion et avoir juste l'envie de donner ce que j'avais à donner et d'être le plus efficace possible. Et surtout de m'amuser, de me sentir bien. En faisant ça, on m'a proposé des choses à la suite de ça, parce qu'on m'avait vu. Et parce que j'étais vraiment juste dans la passion et dans l'envie de transmettre et de faire ce que j'avais envie de faire. Et puis finalement, j'ai répondu à une offre d'un journaliste qui me dit « On cherche des cuisiniers pour faire des fois des petites émissions comme ça, est-ce que ça te tente ?» Bah ouais, pourquoi pas, ne sachant même pas où j'allais, j'arrive à Québec, on me propose ça, je dis oui, pourquoi pas, donc je le fais. Et puis on me dit, c'est l'émission L'Épicerie. Ouais, je savais même pas que cette émission elle existait, je connaissais même pas L'Épicerie, je regardais pas la télé. Donc je fais cette première expérience, puis ça se passe super bien, et je suis vraiment content. Et on vient me chercher pour mes aptitudes de cuisinier en règle générale, sans forcément aller chercher dans mes origines, mais simplement cuisinier général. Donc j'étais content de ce point de vue-là et tout. Et on m'a rappelé plus tard pour justement mes origines. Et là, j'étais vraiment super fier. Viens, on a besoin de on va aller voir des producteurs qui font des légumes, qui ne poussent pas à Québec. Est-ce que tu penses que tu pourrais cuisiner quelque chose, machin. Je dis ok. Et c'est là que je me retrouve chez toi, à faire de l'émission. C'est ça. Donc, une chose en emmenant une autre. L'émission a été donc diffusée, c'est une très très belle émission. Franchement, j'ai vraiment passé un bon moment, ça a bien marché, ça a plu beaucoup de gens. Et à la suite de ça, quelques mois plus tard, on est revenu pour me proposer de faire des capsules vidéo. Ok, encore une fois, je sais pas du tout, je suis pas du tout dans une recherche d'argent, quoi que ce soit. Je suis juste à kiffer, à aimer, à faire, parce que c'est ce que j'aime finalement. On est des passionnés quand on vient faire des métiers qui font que ta montre explose parce que tu passes trop de temps, c'est que t'es un passionné et que tu fonces et que t'as pas d'explication, t'aimes ça, c'est dans ton corps. Donc je le fais. Et finalement, je fais ces petites capsules, comme ça, j'en fais 4-5. Je touche du doigt mon rêve puisque je me retrouve devant des caméras à faire des recettes de cuisine. Et puis finalement, ça me plaît, mais pas du tout. Je déteste, j'aime pas ça. De devoir s'arrêter, de reprendre, de refaire ceci, couper un autre plan, de machin. Qu'est-ce que je dois dire déjà ? Mon rêve, en fait, c'est